Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? On est le mercredi, on est le 28 du mois d'octobre et un hiver qui, on dirait, veut commencer plus vite. Faut s'habiller chaudement, il fait moins 3 degrés actuellement à l'extérieur du studio B. Et ce qu'on annonce comme température, ben c'est ça sera pas chaud. On prévoit un maximum, ben il fait moins 3, après un maximum de 2 degrés pour aujourd'hui. Alors, c'est plutôt nuageux avec des averses de neige dispersées. Et pour la nuit prochaine, c'est plutôt nuageux, des passages nuageux pour la nuit, avec 1 degré. Pour demain, c'est un ciel variable. Ensoleillé avec des passages nuageux, faut pas lâcher. On est en plein centre, milieu de la semaine. Vous êtes dans l'émission GFP en direct. Et c'est Georges Fernand Poirier qui vous accompagne jusqu'à 8h30 en direct. Et de 8h30 à 10h, on aura la rediffusion de la Fête nationale des Québécois. Alors, c'est ce qu'on vous offre ce matin. Et on travaille aussi à la préparation du 24e réveillon de Noël de l'abbé Gérard Tremblay, qui sera diffusé à la radio de 22h à 6h du matin, le 24 décembre, la veille de Noël.
Fire.
Est-ce que selon vous, les radios de Québec, entre autres une radio, est-ce que une radio qui s'appelle Radio X, est-ce que Radio X fait de l'incitation à la désobéissance civile, incitation subtile? On dit pas inciter là, directement. Est-ce qu'ils font de l'incitation subtile à la désobéissance civile? Ils sont tout le temps en train de chier sur le gouvernement, sur François Legault. Ils défectent, moi je dis le vrai mot, là. Et puis quand c'est pas le gouvernement, ben c'est sur Québécois, les journalistes de Québécois. Est-ce que le gouvernement du Québec a dans ses cartes, est-ce qu'il songerait à mettre la clé à off de cette antenne-là qui incite subtilement ses auditeurs, je dis bien subtilement. Alors c'est pas pour rien que le François Legault, lors d'un point de presse il y a quelques semaines, qui a dit en pleine conférence de presse au journaleux de RX, il a dit « J'ai bien de la misère avec vous autres ». Ça, c'était comme un genre de petit avertissement. Mais c'est l'incitation subtile qu'on fait, que fait cette radio poubelle-là. À un moment donné, il faudrait peut-être penser à pas tout le temps mettre la faute chez un puis l'autre, mettre la faute sur le gouvernement, mettre la faute sur les journalistes. La pandémie est mondiale et le vrai responsable, c'est le virus. Puis c'est la solution, c'est de trouver une solution au problème, c'est-à-dire le vaccin. Alors, c'est pas de s'en prendre tout le temps aux journalistes, puis s'en prendre au docteur Arruda, puis s'en prendre tout le temps au gouvernement. Le gouvernement fait bien son possible pour qu'on puisse passer à travers. Alors, ce serait peut-être intéressant, à un moment donné, qu'on ait une dépollution des ondes, puis qu'on... cette gang de chialeux-là qui arrête de chialer. C'est ça que je pense. Vous êtes dans GFP en direct, Georges Fernand-Poirier. Je persiste et je signe. Vous êtes sur la radio libre, indépendante, une vraie radio indépendante, en direct du centre-ville de Québec, en ce mercredi le 28 octobre 2020. Voici Paul Piché, un bon vieux souvenir.
Il s'est enfui, il est blessé, refusant qu'on le soigne, il est allé. Sur la montagne. s'appelle au loin. J'appelle au loin, j'appelle au loin. L'eau qui ruisselle après la pluie n'a plus le même goût. N'écoutez pas ce que j'en dis, je ne suis qu'un loup. J'appelle, j'appelle au loin. J'appelle au loin, j'appelle au
Oui, c'est Georges Fernand Poirier à la radio avec les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. Passez un beau mercredi, milieu de la semaine. Il fera pas chaud, mais ça devrait revenir un petit peu plus chaud dans quelques jours. Faut pas lâcher, faut pas se décourager.
C'est bon, je suis venue. Si je t'ai aimé 20 minutes, n'en demande pas plus. Ne me retiens pas ici. Me garder pour toi, à courir. les richesses, as-tu beaucoup de joie? Que fais-tu donc de la vie?
Succès radio numéro 1. Au début des années 70, je pense, c'est en, plutôt en 72, 73, c'était un hit à la radio. Je vous rappelle que vous écoutez GFP en direct et dans quelques instants, on va faire un petit survol de l'actualité, de ce qui se passe sur la planète, sur la boule, avec Offenbach.
Yeah.
Et hey, we are fin back. Jerry Boulet, qui nous a quittés il y a quelques années. Un grand artiste québécois que moi j'ai toujours aimé. Il l'a pas eu facile non plus à la fin de sa vie. C'est pas évident. Décédé du cancer, là. C'est pas évident. Il est 8h28, on va passer à l'information, aux informations. Alors, dans le monde entier, il y a présentement 44 315 000 cas de COVID-19. Au pays, 224 142. Au Québec, 101 885. Et aux dernières heures, dernières nouvelles qu'on a eues, concernant les zones rouges, les gyms reculent et resteront fermés. Alors, on sait qu'ils menaçaient de différents moyens de pression pour faire pression sur le gouvernement. Donc, la coalition de 260 centres d'activité qui comptait défier le gouvernement demain invite plutôt ses clients à manifester, c'est évident, parce que le gouvernement... Le Conseil des ministres se prépare à adopter un décret qui permettrait à la police de remettre des contraventions aux clients ainsi qu'aux propriétaires de gym. Donc, le premier ministre Legault a fait savoir qu'un décret serait adopté afin de pouvoir imposer des amendes aux gym. Alors, devant cette dérive autoritaire, nous avons pris la décision d'inviter plutôt nos clients à une contestation santé devant nos installations ce jeudi. À partir de 8h30, ça va donner quoi? Tu sais, il y en a qui comprennent pas qu'on vit une pandémie. Puis c'est pas juste au Québec que ça se passe un peu partout. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention de ce... Il y a eu un accident spectaculaire dans la nuit de mardi à mercredi. Alors, vers minuit 23, un véhicule a effectué une sortie de route à l'intersection de la rue Soumante et Hubert à Vanier pour aboutir dans un poteau. Alors, les deux occupants ont été transportés dans un centre hospitalier de la région. Leur vie ne serait pas en danger. Alors, on voit que la voiture a complètement rentré. Le poteau est dans le milieu du moteur, imaginez-vous. Puis ils sont chanceux d'être vivants. Si vous regardez la photo dans le journal de ce matin, pas évident. À part ça, un mafieux était source de police. Andrew Scopa informait les enquêteurs pendant qu'il dirigeait la mafia montréalaise, révèle un nouveau livre qui vient de paraître. Un livre, l'ex-parrain intérimaire de la mafia montréalaise, Andrew Scopa, était à la fois informateur de police et source journalistique pendant qu'il tentait de prendre la succession de Rizzuto. C'est ce qu'on apprend dans le nouveau livre « La source » des journalistes Félix Séguin et Éric Thibault, auquel le défunt chef de clan a lui-même collaboré en brisant l'omerta par ses confidences sur sa vie au sein de la mafia. Alors l'omerta, c'est l'omerta, et ceux qui brisent l'omerta, ben vous voyez qu'est-ce qui arrive. Scopa, dont le vrai prénom était Andrea, a été assassiné par balle le matin du 21 octobre 2019 en face du gymnase où il allait s'entraîner dans l'ouest de Montréal. À part ça, ben il fait toujours moins 3 degrés. Dans le procès d'Éric Lapointe, une absolution conditionnelle qui dérange. Mais coudonc, tu sais, c'est pas évident. Il y a toujours des questions d'argent alentour de ça aussi. Il faut pas oublier ça. Les mesures sanitaires, l'opposition se déchaîne et se déchaîne, Legault contre-attaque. Alors, on sait que les pressions s'accentuent sur François Legault s'il s'en prend aux partis d'opposition qui jouent à un jeu dangereux en critiquant les mesures de santé publique et menacent d'amende les clients des gyms rebelles. Alors, on verra bien. De toute façon, tout devrait rentrer dans l'ordre dans quelques semaines. Alors, faut arrêter de se décourager tout le temps. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention? Il y a l'Halloween qui s'en vient. Alors, ce sera permis aux enfants de passer l'Halloween avec distanciation et respect des mesures sanitaires. On dit qu'il va faire froid, par exemple. Il annonce assez froid pour l'Halloween. Alors, c'est pas évident pour les enfants. Il va falloir que, si vous envoyez vos enfants à l'Halloween, il va falloir que vous les qu'ils soient bien habillés pour pas geler, parce qu'on annonce quand même une température assez froide. À part ça, il y a l'Apollo qui est enfin revendu pour une pièce. Ça, ça a été fait pendant les libéraux. C'est une passe-passe des libéraux, ça, qui ont acheté un bateau qui nous a coûté aux contribuables. Ça a coûté pas loin de 4 millions. Alors, on va y aller, je vais vous le dire tout de suite. La mésaventure de l'Apollo tire donc bel et bien à sa fin, rappelant que le navire âgé de 50 ans avait été acheté d'urgence et sans inspection par la Société des Transports du Québec en janvier 2019 afin de pallier à l'absence du NM Gautier entre Matane et Godbout. Après, alors on s'est fait avoir pas à peu près, là, encore une fois, encore, on se fait encore rouler dans la farine encore une fois. Après avoir déboursé 2,1 millions pour faire l'acquisition, la STQ a dû allonger un autre 1,4 millions. Là, on est rendu à 3,5 millions pour le remettre aux normes et lui permettre de continuer à naviguer. Alors, l'Apollo, qui n'aurait été en service qu'une vingtaine de jours, avait été mis au rancord à la suite de deux collisions. Donc, je ne sais pas s'ils ont des assurances, mais c'est encore un autre passe-passe qu'on se fait rouler encore une fois dans la farine. Comme d'habitude, les Québécois, puis on paye. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux Point Éco. La météo, il fait moins 3 actuellement. C'est plutôt nuageux ce matin. Nuageux avec des averses de neige dispersées en après-midi. Avec un maximum de 2 degrés Celsius, vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux Point Éco. Moi, je vous souhaite une belle journée. On va écouter la rediffusion de la Fête nationale des Québécois tout de suite après ça. Et moi, je vous reviens en direct ce soir, 16h à 18h. Bonne journée.
On est fait l'un pour l'autre, moi Tarzan, toi Jane. Mais plus on vit ensemble, et moins on se ressemble, moi Tarzan, toi Jane. Depuis que je suis avec toi, il y a deux personnes en moi, moi Tarzan, toi Jane. Parle-en à personne, mais des fois ce serait le fun si c'était toi Tarzan, moi Jane. Pour être un homme, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu sois le plus fort. Faut que t'aies l'air d'un cowboy, il faut que tu lises Playboy, il faut que tu fasses la guerre, il faut que tu boives de la bière. Il faut que tu sois intelligent puis que tu gagnes bien de l'argent. C'est fatigant, c'est effrayant, ça pas de maudit bon sens. Avec les femmes, faudrait pouvoir scorer comme on score au hockey. Même si des fois, pour changer de rôle, on voudrait juste se mettre la tête sur une épaule. Des fois, moi aussi, j'aurais envie de rester au lit pendant que t'irais gagner ma vie. Il rit pas de moi si je bois du cream soda. Moi la bière j'aime pas ça, puis je pas tapette pour ça. Je pas tapette, je pas tapette, je pas tapette pour ça. Mais des fois un gosse tente de se prendre pour Superman. Quel est l'homme qui n'a pas au moins une fois déjà rêver d'être une femme. Tu descends de ma côte, on est fait l'un pour l'autre, moi Tarzan, toi Jane. Et plus on vit ensemble, et moins on se ressemble, moi Tarzan, toi Jane. Depuis que je suis avec toi, y a deux personnes en moi, moi Tarzan, toi Jane. Parle-en à personne, mais des fois ce serait le fun si c'était toi Tarzan, moi Jane.
fois que je pleure, mais va m'acheter des fleurs. Berce-moi comme un enfant, puis je vais t'appeler maman. J'aimerais ça moi aussi, pouvoir me faire faire un petit. Passer ma vie à le dorloter, passer ma vie rien qu'à t'aimer. 7 ans déjà qu'on se regarde dans les yeux, un mur entre nous deux. Tu me montres une image de toi, je te montre une image de moi. Tu m'avais fait ta croix que j'étais ton premier, quand t'en avais passé déjà toute une armée. Moi au contraire, je passais pour un don Juan, et ma seule femme avant toi, c'était maman, maman. Tu descends de ma cour, on est fait l'un pour l'autre. Moi Tarzan, toi Jane, et plus on vit ensemble, et moins on se ressemble. Moi Tarzan, toi Jane, depuis que je suis avec toi, y'a deux personnes en moi. Moi Tarzan, toi Jane, parle-en à personne, mais des fois ce serait le fun si c'était toi Tarzan, moi Jane.
Aujourd'hui on part au soleil, hey, hey, hey.
Vous savez, souvent, les mathématiques, ça parle, les chiffres parlent, ce qu'on dit souvent. Et quand on regarde l'évolution de la radio, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle était il y a 25 ans, quand moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans, on se rend compte que la radio, entre autres, plus ça va, plus elle perd de son élan, plus les chiffres sont à la baisse. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport au web radio comme nous autres qui s'en vient. Qui s'en viennent, ben, qui sont là. Il y a plusieurs web radios, il y a nous autres, puis il y en a d'autres. On se rend compte de plus en plus que c'est comme ça et que les chiffres, ça baisse tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour écouter n'importe quoi un peu partout. Mais avoir une présence en onde, c'est quelque chose, vous savez. Et je vous mets au défi d'écouter la radio demain, les autres stations, de zapper, de revenir avec nous autres. Et constatez qu'on va vous offrir encore du réchauffé. Ben oui, un petit plat réchauffé. Du blabla qui a été enregistré il y a 3-4 jours. Du chiolage, du mémérage. Puis des affaires automatiques, probablement de la musique, mais avec aucun animateur. Comme des radins. Des radins, des doubles mentons radins. Des doubles mentons radins qui sont à genoux devant le CRTC. Sa Majesté. Le CRTC à Ottawa. C'est ça que vous allez avoir comme contenu demain et ce soir même. Alors la radio est devenue fade, elle est devenue insipide. Insipide, pourquoi? Parce qu'il y a une déresponsabilisation de la part de nos dirigeants de réseau, parce que la radio est devenue conglomératique, c'est devenu des conglomérats, des grosses entreprises où la radio locale se fait de plus en plus rare. Vous n'en verrez pas souvent de radio locale ou qui appartiennent à des locaux. Donc, c'est souvent des compagnies comme Bebel et compagnie, des grosses compagnies qui ont de l'argent et puis qui vont vous offrir un contenu, oui, mais il va venir de Montréal. Il n'y aura pas rien de local, il n'y aura rien de direct, de l'interaction, ce qu'on voyait autrefois, l'interaction avec l'auditeur. Prenez juste l'exemple du temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, là, c'était-tu le fun d'écouter la radio? Il y avait plein de monde qui appelait. Il y en a qui étaient à moitié chaud, mais ça fait rien. Ils faisaient les vœux. Ben, joyeux Noël à toute la gang de, bon, la famille. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Il y a comme une déconnexion entre l'auditeur et eux. Alors, ce qui fait que, ils ont comme le nez en l'air. Ils ont tout le nez en l'air, puis le petit doigt en l'air, là. Avec les salaires faramineux qu'ils ont. C'est pour intimider.
Gate.
Dans quelques instants, un extrait sonore sur l'historique de la Maison des Patriotes du Québec.
Toutes nos coûtes chères, un peu plus cher que la semaine dernière. Monte ton salaire, ça va t'aider à nous faire peur.
Bonne vieille tune du Capitaine No, succès radio numéro 1, 1975 à la radio. On écoute l'extrait de la sur l'historique de la Maison des Patriotes du Québec.
Bien le bonjour tout le monde, ici Georges-Fernand Poirier pour la chronique hebdomadaire de GFP sur la web radio en ce jour... En cette Journée nationale des Patriotes québécois, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Ben, je vais vous parler des Patriotes. Avant de vous lire un texte de Gilles Laporte dans le journal Le Devoir, que vous pouvez consulter également, journal Fleur-de-Lysée, qui est publié par la Société nationale des Québécois ou le Mouvement national des Québécois. Alors, avant de passer au texte de Gilles Laporte, j'aimerais vous parler, vous raconter un petit peu l'histoire, comment ça a commencé, la Maison des Patriotes du Québec, à Québec. Pour commencer, j'ai tenté d'abréger, puis de vous raconter de façon abrégée, puis de vous brosser un tableau de ce qui s'est passé, parce que il s'est passé beaucoup de choses, on a assisté à beaucoup d'événements. Tout d'abord, je vous dirais que ça a commencé qu'à un moment donné, j'écoutais la radio, j'écoutais André Arthur, qui vient de nous quitter là sur les ondes récemment. Puis moi, puis André Arthur, ben moi, je l'ai connu, André Arthur, à l'époque où il était à CHRC. Moi, je travaillais la nuit, et c'était un grand maigre. Moi, dans ma tête, à moi, je me disais, bon, le pinch qui est arrivé. Je l'appelais, dans ma tête, je l'appelais le pinch. Mais il a tout un caractère, puis on a croisé le fer un petit peu, mais La radio, c'est pas si simple qu'on croit. Faire de la radio, c'est pas si simple que l'on peut, qu'on pourrait croire. Et on s'en rend compte souvent quand ça fait plusieurs années qu'on baigne un petit peu là-dedans. Alors, ça a commencé qu'il y avait une guerre de drapeaux à l'Hôtel de Ville de Québec. Souvenez-vous, la fameuse guerre de drapeaux avec un dénommé Pierre Roy, qui est un ultra-fédéraliste, qui était présent sur les ondes. C'est une guerre, on a vécu ni plus ni moins, je vous dirais, la guerre des ondes. Et ça a commencé comme ça. Là, j'ai contacté Biron, puis Paul Biron, c'est un ingénieur, le frère de Rodrigue, qui fut ministre de l'Industrie et du Commerce au gouvernement du Québec, sous l'égide du Parti québécois. Alors, ça a commencé comme ça, et là, j'ai rencontré Paul Biron, puis là, on se rendait compte que sur les ondes de la radio de Québec, il y avait beaucoup de propagande fédéraliste, entre autres sur CHRC, avec un dénommé Jean Cazot. Jean Cazot qui... D'ailleurs, qui est retourné à Ottawa, mais qui a fait qui a été briseur de grève à CJRP pendant 2 ans. Alors, ça a commencé comme ça, puis il arrivait d'Ottawa, puis il faisait de la propagande fédéraliste avec Guy Bertrand, qui maintenant est revenu dans nos rangs. Merci. Salutations à Guy. Mais à l'époque, Maître Guy Bertrand avait des idées différentes. Ce qui fait qu'on a parti une campagne de boycottage, de boycottons CHRC et ses commanditaires, des tracts qu'on s'est promené dans les stations de radio un peu partout à travers la région de Québec, chez FM. Puis là, ça a continué comme ça, d'une manifestation à l'autre. Puis des activités. Après ça, je me souviens qu'en 2000, j'ai organisé la fête nationale des Québécois au domaine de Maizeray. Après avoir eu un petit héritage, j'ai dit bon, ben, ça m'a coûté 3 000$ pour faire organiser la fête nationale des Québécois au domaine de Maizeray. Et j'avais demandé une subvention, je me souviendrai toujours. On avait demandé une subvention à l'époque à l'organisation en question, là, finalement, parce qu'il y avait une erreur, en tout cas c'est de la paperasse, vous savez ce que c'est que la paperasse gouvernementale, la subvention était refusée, donc c'est moi qui ai payé, on vendait des hot-dogs, la musique, etc. Par la suite, au fil du temps, les activités qu'on a organisées, ben, ça a été la distribution de milliers de drapeaux du Québec et des patriotes. Après ça, ce que nous avons fait, on a participé à des émissions de radio. J'ai participé, moi puis Biron, à la radio pour justement faire connaître l'histoire du Québec aux Québécois, car la Maison des Patriotes, c'est un peu le but de faire connaître notre histoire. Alors, au départ, c'était, comme je vous disais tantôt, c'était l'histoire du drapeau avec Biron, Arthur puis Pierre Roy, le célèbre colonisé fédéralo qui a sévi pendant des années sur toutes les tribunes radio du Québec. Remarquez bien que moi, je faisais le contraire, mais au niveau québécois, pour faire connaître notre histoire à nous autres. Alors, après avoir rencontré Paul Biron, nous avons fondé l'OSBL MPQ, Maison des Patriotes, qui existe toujours. On va préparer d'ailleurs bientôt une campagne de financement. Alors, ce que nous avons fait depuis des années en ce qui nous concerne, et contrairement à d'autres, nos babines, nous autres, y ont suivi nos bottines. Comprenez-vous? Les babines qui suivent les bottines. Ça veut dire, quand tu dis de quoi, la part des politiciens, vous savez comment c'est. Alors, on se retrouve maintenant, dans les années 98 jusqu'à aujourd'hui, combat idéologique, guerre des ondes, distribution de drapeaux québécois et patriotes, lutte contre la démagogie fédéraliste qui, avec la convergence, envahissait et envahit toujours aujourd'hui les ondes des radios du Québec. Votre humble serviteur ici faisait la même chose pour la défense de notre histoire et celle du Québec, évidemment. La question ne se pose plus. Les fédéralistes avaient des bons stratèges, imaginez-vous. Et quand je dis stratège, il y avait des sous, il y avait du cash. Scandale des commandites, corruption, propagande, puis même certains animateurs de radio de droite, propagande haineuse, que nous autres on se battait contre la propagande haineuse, ce qui sévissait sur les ondes. Alors, on a fait ça dans tous les médias du Québec, journaux, radio, télévision. Alors moi, je vous ai brossé un petit tableau de ce qu'on a fait, puis on continue avec des moyens, pas des gros moyens, mais on tente quand même de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Alors, je fais une petite pause, puis je vous reviens avec le texte de Gilles Laporte, le président du Mouvement national des Québécois. Alors, ça s'intitule « Le patriotisme à l'ère libérale ». Le résultat de l'élection générale du 7 avril dernier en a surpris plus d'un. Il faut notamment prendre acte de tous les grands partis. Le Parti libéral, élu par une pluralité de Québécois, est celui qui a pris le moins d'engagement en matière de langue, de culture et d'histoire nationale. Pour plusieurs, il ne faut pas y voir un renoncement pur et simple à notre identité. dès lors voit se noyer dans le multiculturalisme canadien. Nous adhérons largement à cette lecture. Pourtant, les Québécois pêcheraient-ils par excès de confiance? Ont-ils bien pris acte de la prépondérance de l'anglais à Montréal, de la détérioration de l'enseignement de notre histoire et notre langue dans les écoles, ainsi que des défis inédits que pose l'intégration des immigrants? Bonne question. Les Québécois risquent donc de se trouver devant une impasse en fermant résolument la porte à la souveraineté, tout en risquant de ne pas retrouver leur juste place dans le Canada actuel. Depuis 3 siècles, la survie du Québec français a d'abord dépendu de citoyens dévoués qui, dans les couvents, les journaux et jusque dans les modestes écoles de rang, ont travaillé d'arrache-pied à transmettre notre histoire glorieuse, notre langue française et les usages de nos pères de génération en génération. Convenons que ces humbles porteurs de l'identité n'ont guère été remplacés. Aujourd'hui, ni l'école, ni l'Église, ni les médias, ni les politiciens ne souhaitent assumer cette indispensable vigilance afin d'inculquer les valeurs nationales. Bien au contraire, l'idée même de patrie ou de nation est devenue suspecte et seules les sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste semblent encore mener la mission impérieuse consistant à transmettre un héritage culturel. Notre peuple est à la croisée des chemins et court le risque, au moment de rejeter l'idée même d'un référendum ou de la souveraineté du Québec, d'en même temps mettre en péril les fondamentaux de son existence comme société distincte en Amérique du Nord. Or, qu'on ne se fasse pas d'illusions, sans une mobilisation concertée et la pleine réhabilitation d'une voix nationaliste dans nos institutions, nos écoles et nos médias, il ne fait pas de doute qu'en cette ère des communications, nos caractéristiques comme peuple risquent très rapidement de s'éroder et de disparaître. Le nouveau gouvernement élu doit en être conscient et pour l'y aider, nous devons d'urgence sortir la fierté nationale des ornières de la partisanerie politique. Le patriotisme n'est pas en soi péquiste. L'identité n'est pas une question référendaire et le salut de la patrie ne dépend pas seulement de l'option souverainiste. Nos pères et nos mères se sont sacrifiés pour nous léguer une langue et une culture. Ce combat, ils l'ont joué dans l'Empire britannique puis au sein du Canada, tel que nous le connaissons. Nous n'avons tout simplement pas le droit de troquer cet héritage sur le succès et le nom de l'option souverainiste. Entre renoncement et indépendantisme, il est donc urgent de légitimer une posture consistant à mener le combat national sans qu'il soit impérativement associé à une option politique. Je parle ici d'un authentique patriotisme dans son sens étymologique, consistant d'abord à servir la patrie. Un patriote aime son peuple tel qu'il est et non pas tel qu'il le voudrait, et souhaite sincèrement qu'il prospère et puisse exprimer ses traits culturels. Le patriote sous l'ère libérale est donc d'abord honnête et sincèrement attaché au bien commun. Il n'est plus le temps de conforter son patriotisme par un choix idéologique penchant vers un parti politique ou un autre. Pour les 4 prochaines années, l'impérium libéral régnera sur le Québec. Il est nécessaire d'engager un dialogue constructif avec l'équipe au pouvoir et de faire l'inventaire de ce qui peut et doit être défendu. Toute autre position, y compris celle consistant à nourrir l'amertume envers son propre peuple ou de faire obstruction en attendant une hypothétique revanche, n'a rien de patriotique. À l'aune des défis urgents que doit relever la cause nationale, une telle attitude revient même à une forme de trahison. C'est signé Gilles Laporte, président du Mouvement national des Québécois. C'est Georges Fernand Poirier qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique GFP. Disponible sur Mixcloud, disponible également sur le site Facebook de Radio Fiat Lux.
Disponible également en balado-diffusion sur le site Radio Fiat Lux. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions qui ont été diffusées. Alors, vous allez sur le site Radio Fiat Lux et vous cliquez sur balado. C'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission. C'est parfait. On est bien équipé pour ça.
En passant, ceux qui voudraient donner un coup de pouce à la Maison des Patriotes, soit par un don ou autre, on démarre une campagne de financement bientôt. Vous m'écrivez à Maison des Patriotes avec un S du Québec incorporé, @ymail.com, je répète, 2M au départ, Maison des Patriotes du Québec incorporé, patriote avec un S, @ymail.com. Ciao.
est maintenant venu. Relève enfin ta tête fière, bientôt c'est nous qui ferons la loi. Nos pères avant nous ont crevé pour défendre ta race et tes droits. Tant pis si l'on doit y rester, le Québec aux Québécois. Regroupons-nous pour mieux frapper l'ennemi qui partout nous harasse. Pour 50 qui devront tomber, 5000 autres reprendront ta place. La relève qui derrière nous monte, eux enfin pourront respirer l'air pur d'une patrie sans honte que ton sang lui aura donné. Patriote du sol québécois, le temps est maintenant venu. Relève enfin ta tête fière, bientôt c'est nous qui ferons la loi. Nos pères avant nous ont crevé pour défendre ta race et tes droits. Tant pis si l'on doit y rester, le Québec aux Québécois.
plugin de blues. Faut que je te joue. On va te jouer. De poubelle, Colin de poubelle, Colin de poubelle. Hey Jerry Boulet, lui nous en a offert des bonnes tunes du Québec. C'est spécial, tu sais, de manière ceux qui ont, ceux qui connaissent un peu son histoire, c'est pas évident qu'est-ce qui est arrivé là. Il a toffé jusqu'à la fin, Jerry. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux.tk. Voici ce qu'Yves Michaud disait. Yves Michaud, c'est un ancien député cofondateur du quotidien Le Jour avec Jacques Parizeau et René Lévesque. Et pour l'avoir rencontré, je l'ai rencontré, moi, c'est la... Vous savez, à chaque année, au mois de novembre, à Saint-Denis-sur-Richelieu, on fait tout le temps une commémoration, la victoire, on célèbre la victoire des Patriotes. Parce qu'à Saint-Denis, il y a eu une victoire. Et j'ai eu l'occasion de visiter tout ça. On mangeait des bines, du pâté à viande, il y avait de la musique folklorique, c'était-tu le fun. Et on louait une grande salle, puis on faisait un dîner des Patriotes pour célébrer la victoire des Patriotes. Voici ce que Yves Michaud disait lors du lancement du livre de Jacques Parizeau en 2010. « Ils ne sont pas légions ceux et celles qui, dans l'histoire d'un peuple, impriment leur marque pour les vivants et pour la suite de leur monde. Jacques Parizeau est de ceux-là. Nous lui sommes redevables en tout ou en partie des outils économiques qui forgent le destin de notre collectivité nationale. Frère Jacques ne s'est jamais endormi. Il a construit tout cela dans la patience des jours recommencés, la fidélité à une grande œuvre et une inébranlable ténacité, accueillant les victoires et les défaites des deux menteurs du Kipling que l'on reçoit du même front si l'on veut devenir un homme. Jacques et moi étions membres du club distingué et vénérable des octogénaires. À cet âge, on a le bruit des luttes, des fureurs s'éloignent pour faire place à l'enivrant silence, des sommeils où l'on ne peut voir les plis tourmentés, des routes et des fleuves. La nuit où René Lévesque a rendu l'âme à l'hôpital, nous étions, Jacques et moi, discrètement retranchés dans une chambre, retenant notre immense chagrin. Je lui dis un vers du chant des partisans que René aimait. « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. » Jacques a pris le flambeau, il nous a enseigné la ferveur et a guidé notre peuple à la lisière même de la terre promise. Pour cela et pour tant de choses, la patrie lui est reconnaissante. Je lui souhaite, là où il repose, que l'aurore aux doigts de rose ouvre enfin la porte d'un jour qui verra la concrétisation de ses luttes, de ses combats et du statut dont il a rêvé pour le Québec et pour tous les Québécois. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux.tk en pleine émission spéciale de la fête nationale des Québécois. Notre fête et bonne fête.
de mes frères m'y attend. Faudrait tirer, traîner le temps avec mon frère qui est dedans. Il pousse sur un très beau géant. Les exploiteurs se font pesant.
Je voulais saluer également les gens qui sont sur la colline parlementaire au Parlement qui nous écoutent actuellement. Alors, salutations à vous autres.
Du soleil, de la chaleur pour les enfants, flatter les chiens du vieux chasseur, boire avec lui un coup de blanc, traîner le sud vers le nord. Notre sud est encore tout blanc. Ton père parlait du Labrador.
Mon père parlait du Labrador.
Du vent qui dansait sur la mer.
Un homme marchait sur la neige,
cherchant des chiens pour un traîneau.
Il est rentré les yeux mouillés,
puis un avion nous l'a ramené. Sur la neige.
Alors, je vous invite à rester avec nous autres toute la journée. On va mettre des petits extraits sonores, on va prendre un petit café. Et durant toute la journée, on va vous diffuser de la musique du Québec, de chez nous. Des fois en direct, des fois en balado. Alors, restez là. Et de 16h à 18h, j'ai FP en direct comme d'habitude. Et une programmation tout à fait spéciale pour la fête nationale, notre fête nationale des Québécois.
Je dois retourner vers le nord, chanter l'été du Labrador. Il est rentré les yeux mouillés.
Puis un avion nous l'a ramené.
Un millier d'hommes sur la neige.
Sur la neige, pas d'endroit pour retourner.
Ils sont figés là sans connaître. Ils n'ont que du sud à penser. Je dois retourner vers le nord, chanter l'été du Labrador.
dormi, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Vous écoutez Radio Fiat Lux.
était de Charlevoix. Faudrait pas oublier aussi la trilogie de Louis Caron qui nous parle un petit peu des draveurs puis de comment que ça se passait à l'époque. Ça nous ramasse, ça nous reporte à l'époque de Trois-Rivières, à l'époque où les compagnies anglaises commençaient à prendre le contrôle des avoirs québécois. Et puis c'est pas nouveau. Alors, on va vous revenir avec l'histoire des Patriotes. On va se préparer parce qu'on vient de finir de souper. Puis on a été pris. J'ai été pris avec aussi la production de l'émission de ce soir, mais aussi.
L'extrait que tu as lu, c'est Louis Aymon qui a dit ça. Ici, il y a une citation au premier chapitre. Nous sommes venus il y a 300 ans et nous sommes restés. Autour de nous, des étrangers sont venus qu'il nous plaît d'appeler des barbares. Ils ont pris presque tout le pouvoir, ils ont acquis presque tout l'argent. C'est Louis Aymon qui disait ça.
Exactement. Et Félix-Antoine Savard, ben, si vous voulez vous le procurer, je ne sais pas si ça se vend encore, peut-être que oui, ça se vend encore. C'est un livre qui est très rare, qui est maintenant. C'est un livre qui a été publié dans les années, je pense, les années 60. Monseigneur, Félix-Antoine Savard, c'est Monseigneur Félix-Antoine Savard qui était originaire, qui était un ami de l'abbé Gérard Tremblay, en passant, qui était de Charlevoix. Alors, mesdames et messieurs, on va ouvrir le potentiomètre de la musique. Alors, on va écouter une ou deux tunes québécoises de temps qu'on se prépare pour vous raconter la belle histoire des patriotes, la belle histoire, ce qui s'est passé au Québec, l'histoire des patriotes, parce qu'aujourd'hui, nous commémorons les patriotes québécois en ce 15 février 2012. Yeah. Sauvez vos ombres.
Pas pire comme, comme adaptation, ça.
Absolument. Le cadran qui est tombé à terre. Allez, vous écoutez la radio planétaire en direct du centre-ville de Québec. Vous êtes sur Fiat Lux Radio. C'est la soirée commémoration des Patriotes 2012. À quoi certains comptes rendus, on dirait que le soulèvement des Patriotes s'est résumé à 3 batailles et à 12 pendus. Ces événements constituèrent en fait la plus vaste opération militaire jamais menée au Canada, en temps de paix. Alors que l'armée anglaise écrase le peuple canadien-français, se soldant par des centaines de morts, des milliers d'exilés aux États-Unis, des arrestations massives et une implacable loi martiale, à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes, et afin d'accompagner le florilège d'activités visant à célébrer nos héros, voici la chronologie d'une centaine d'événements s'étant déroulés entre en 1837-1838, que chaque Québécois à la grandeur du Québec y trouve un exemple de courage, de ténacité et de dévouement. 21 mai 1832. L'armée ouvre le feu sur la foule lors d'une élection partielle à Montréal, tuant 3 partisans patriotes. 17 février 1834. Le Parti patriote dépose les 92 résolutions au Parlement, vaste programme de réforme dont l'esprit s'apparente à une déclaration d'indépendance.
22. Excusez-nous,
il y a une déconnexion. On est de retour. Alors, je vous rappelle que vous écoutez radiofiatlux.ca, la radio planétaire, en direct du centre-ville de Québec. Commémoration des Patriotes. J'ai accroché le clavier, puis là, ça a déconnecté. Bon, je vous explique ça en deux mots, mais nous sommes de retour. Alors, disons que je vais recommencer, gars. L'armée, le 21 mai 1832, l'armée ouvre le feu sur la foule lors d'une élection partielle à Montréal, tuant 3 partisans patriotes. Le 17 février 1834, le Parti patriote dépose les 92 résolutions au Parlement, vaste programme de réforme dont l'esprit s'apparente à une déclaration d'indépendance. Le 12 mai 1834, des Écossais de Kildare, qu'on appelle la Naudière aujourd'hui, tiennent une assemblée favorable aux 92 résolutions. Le 18 mai 1834, une bagarre entre partisans patriotes et soldats anglais lors de courses de chevaux à Trois-Rivières fait des dizaines de blessés. Le 17 juin 1834, des loyaux pillent le journal patriote Saint-Francis Gazette de Silas Dickerson, puis utilisent ses presses pour imprimer les propos journal pour imprimer leur propre journal anti-patriote. Ça brassait, vous savez. Le 24 juin 1834, le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste réunit plusieurs chefs patriotes qui souhaitent en faire un lieu de réflexion destiné aux réformistes désireux de discuter de l'état du pays. Le 16 novembre 1834, le patriote Louis Marcoux est assassiné pendant une élection à Sorel. Le meurtrier est acquitté, provoquant la colère de Wilfred Nelson, qui s'engage alors dans la cause patriote. Le 18 novembre 1834, le comté anglophone de Stanstead élit 2 députés patriotes, John Granis et Marcus Child. Le 18 juillet 1835, fondation à Atlée d'une association réformiste en présence de Papineau et d'autres chefs patriotes. Le 6 octobre 1836, Robert Layfield, James Burry et James Lipsey organisent à Leeds un comité patriote pour Mégantic. On vous revient avec la suite de 1837. Vous écoutez l'émission spéciale sur le 15 février 1837 en compagnie de GFP, Georges Fernand Poirier, et de Bicnic sur radiofiatlux.ca.
1837. 1er mars, l'Angleterre décrète les 10 résolutions Russell qui réduisent dramatiquement les pouvoirs du Parlement du Bas-Canada. 7 mai, première grande assemblée contre les résolutions Russell. L'assemblée de Saint-Ours a un immense retentissement et servira de modèle aux autres rassemblements patriotes. 15 mai, on est toujours en 1837. À Saint-Laurent, sur la Côte-Vertu, 3000 patriotes écoutent le plus célèbre discours de Louis-Joseph Papineau. Le tribun y lance un appel au boycottage des produits anglais et rappelle que le peuple est la seule autorité légitime. 25 mai 1837, Assemblée patriote à Patton. On propose d'implanter des institutions républicaines sur le modèle des États-Unis. 26 mai, le populaire journaliste Ludger Duvernay est élu par acclamation, député de Lachenaie est porté en triomphe par ses partisans. 1er juin, manifestation pro-patriote des Irlandais de Saint-Colomban. C'est dans mon coin, ça?
Ah oui?
On continue en musique, puis on vient.
OK. Alors, en vous le rappelant que vous écoutez Radio Fiat Lux .tk, la radio planétaire en direct du centre-ville de Québec.
Radio Fiat Lux. Michigan, en costume civil, commandant whisky. Une ville est sortie de la terre, un volcan éteint vient de se réveiller. Quelque part, un marin solitaire s'est mis à chanter.
Claire à 2000 à la ronde, marchions vers la mort certaine. Je commençais à croire à la fable du dôme, quand un jour au lever, je fus saisi d'angoisse, une sorte de vertige, une fébrilité. J'entendis la musique et je vis la lumière. Une immense boule en verre s'élevait devant nous. À l'intérieur, les ombres de mes inventions, jeunes hommes et jeunes filles répétées en centaines de mille répliques parfaites de moi et de elle, rassemblées doucement dans la sphère en cristal, buvaient nonchalamment des verres fluorescents. La musique martelait à 100 lieues à la ronde, et l'éclairage créait les oiseaux albinos, dont les plus surprenants étaient les sans-doute-gants. Rouge et jaune au milieu de la nuit stroboscope. Nous allions vers le dôme et là où nous allions ne se trouvent que les gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt, et on dit qu'il éclaire à des mille à la ronde, où dedans rassembler les désespérés du temps, les perdus qui recherchent le paradis. On m'a dit qu'ils étaient assez jeunes, et pourtant semble-t-il qu'ils ne font que parler lentement.
Des mille à la ronde,
Hey, je l'ai rencontré, Jean Leloup, à Noël l'année passée, avec mon frère. On était dans un restaurant chinois sur boulevard Charest qui s'appelle le Wack and Roll. Pas pour faire de la publicité pour eux autres, mais c'est un bon restaurant chinois. Si vous aimez ça, attendez un petit peu, là. Bon, on est en direct, là, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, OK. Alors, c'est ça, là, il y a quelque chose, là, j'ai essayé de l'arrêter. Bon, ça continue pareil. Alors, pour vous dire que j'ai rencontré Jean Leloup, et dans un restaurant, justement, le Wack and Roll, puis on fêtait Noël, moi et mon frère. Et puis j'ai dit à Jean, comment ça va? Tu connais-tu ça, Radio Fiat Lux? Ah, il dit, oui, je connais ça. Ah, j'ai dit, Jean, je commande une bouteille de saké, on l'appelle-tu à deux? Ah, il me répond, ben oui. Avec OK. Ça fait que là, mon Jean Leloup, la bouteille de saké arrive, deux verres. Mon frère, lui, il chauffe, fait qu'il voulait pas prendre trop boire. Alors, mon Jean Leloup qui prend son verre, puis que ben après ça, il était avec sa blonde, j'ai souhaité un joyeux Noël, puis là, il dit, c'est pour toi, puis tu me dois rien. Ça, c'est du Jean Leloup, parce que c'est un hasard, là, on en parlait comme ça.
Fait qu'il connaissait Radio Fiat Lux, John.
Exactement. C'est les musiciens, ceux qui connaissent la musique, puis qui aiment la musique, puis qui ils font le tour des radios, comme on dit.
Faut dire qu'on le fait rouler pas mal, la Radio Fiat Lux.
Ah oui, ouais. Félicitations. Je l'ai vu au Bonnet d'Homme.
Je l'aime bien, John.
Pour les gens, il y a aussi un restaurant où il y a beaucoup d'artistes qui vont, c'est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui habitent et qui demeurent dans ce quartier. Et justement, au Bonnet d'Âne, Jean Leloup, là, puis que j'ai rencontré, c'est l'année passée que je l'ai recroisé. Il était avec des amis.
Il restait à Québec un bout, là, Jean Leloup.
Oui, il est resté dans Saint-Jean-Baptiste. Il demeurait pas loin d'ici. Là.
On en mettra. Il y a une toune qui serait super appropriée à mettre à soir de lui.
Là. Oui.
Ça file.
OK, ça file. Ça file.
Ça file dans mes oreilles.
OK, on va le baisser un petit peu. Alors, je vous laisse vous saluer, tous ceux qui sont avec nous, qui nous tiennent compagnie en cette soirée de commémoration des Patriotes. Alors, la toune qui repart.
C'est mon téléphone.
OK, je pensais que c'était la toune qui partait, puis c'est le téléphone qui sonne. OK, parce que ça faisait comme « Ta vie se change », ça avait comme un petit peu la même chose. Alors, nous étions rendus
en 1837.
En 1837, là, ici, la barre que tu as faite ici, là. Alors, le 1er juin 1837, l'Assemblée patriote à Saint-Hyacinthe, Michel Plamondon propose que nous
croyons devoir nous appliquer à ne consommer que des objets manufacturés dans ce pays ou introduits par contrebande. Parce que là, il fallait, à ce moment-là, c'était la lutte pour, comme on dit, gars, c'est comme si on disait, gars, l'achat local, acheter chez nous, encourager nos manufactures, encourager nos affaires à nous autres. Pareil comme le protectionnisme qui se fait, même dans différents pays. Puis s'il se passe le mot, hey, achète Made in Québec, tu sais, ça fait travailler nos usines, puis regarde, nous autres, on va les en vendre, mais n'en demeure pas moins que la qualité prime. Alors, le 1er juin, Assemblée patriote à Saint-Scolastique Léandre Dumouchel. Alors, il y a une Assemblée patriote
à Saint-Scolastique.
À Saint-Scolastique, qui propose que nous appelons le tous nos voeux, que nous appelons de tous nos voeux l'union entre les habitants de cette province, de toute croyance, de toute langue et origine, que pour la défense commune, pour l'honneur et le salut du pays, chacun doit faire le sacrifice de ses préjugés. Moi, on dit que c'est une bonne idée.
C'était progressiste, non?
C'était progressiste parce que justement, que ça revient à ce que le professeur disait ce matin, lorsque nous étions Normandins, un éminent professeur qui dit que si le Québec devient un pays, il va falloir se rassembler tous, il va falloir communiquer, il va falloir se parler, s'asseoir alentour d'une table, puis pas se tirer dans le pied, s'entraider, puis avancer vers le même objectif. Faire en sorte qu'il y ait une détermination, qu'il y ait un plan de ce que le Québec pourrait être comme pays, un plan précis, avec... Legault le fait, mais il a viré son capot. Évidemment, c'est triste, mais c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est arrivé. Alors, le 4 juin, une grande assemblée patriote réunit 3000 personnes à Québec sous la présidence d'Augustin Norbert Morin. Le 18 juin, assemblée patriote à Berthier, malgré l'opposition des seigneurs locaux, Jane Cuthbert et Barthélémy Joliette. Le 18 juin, 700 à 800 patriotes réunis devant l'église Saint-François de Yamaska, dont plusieurs Abénakis de la mission d'Odanak, preuve de l'intérêt des Autochtones pour la lutte patriote. Le 25 juin, Assemblée patriote à la Malbaie, Joseph Brassard déclare que nous considérons comme rompu et nul le contrat social qui nous attachait à l'Empire britannique, qui, en cessant de remplir ses engagements, nous relève des obligations que les traités nous imposent. 26 juin, à Montmagny, Étienne Pascal Taché lance un vibrant appel au boycottage des produits anglais devant 600 personnes, un corps de cavalerie et une compagnie d'artillerie. 29 juin, Assemblée patriote à Raiden, Papineau y est déclaré père de la patrie.
Louis-Joseph Papineau.
C'est l'expression « la tête à Papineau ».
Ça vient de là. Parce qu'ils ont tranché la tête à Saint-Eustache.
Voyez, ici, il s'est passé bien des choses.
Ça, c'est un peu plus tard, ça s'en vient.
Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de trancher de tête et te mettre une muselière invisible. Ça fait pareil.
Ouais.
Alors, le 4 juillet... À Stanbridge, des patriotes anglophones célèbrent la fête nationale des États-Unis en brûlant le drapeau anglais Union Jack devant 2000 personnes. Le 17 juillet, grande assemblée patriote à Napierville. 4000 personnes y assistent, soit en principe le tiers de la population du comté. Le 16 juillet, à Deschambault, c'est dans le comté de Portneuf, ça c'est pas loin d'ici, là, pas loin de Trois-Rivières, une assemblée patriote dénonce les résolutions Russell. Le 26 juillet, au moins 5000 personnes assistent à la Grande Assemblée patriote de Yamachiche, précédée d'un défilé et d'une fête populaire. Le 29 juin, 4000 personnes réunies à l'Assomption dénoncent le gouvernement anglais et réclament l'électivité du Conseil législatif. Le 4 août, Assemblée patriote à Aylmer, où se trouvent plusieurs Shriners, ces bûcherons canadiens en lutte contre leur patron britannique. Le 31 août 1837, l'Association des Dames patriotiques du comté de Deux-Montagnes est fondée. Des femmes fabriquent des munitions et confectionne même un drapeau patriote. Le 6 août, grande assemblée patriote à Saint-Constant, organisée par le député Joseph Narcisse Cardinal. Le 6 août, assemblée patriote à Saint-Michel de Yamaska, on exige l'abolition du régime seigneurial et la redistribution des terres.
Là, on est en 1837, on est à moins d'un an et demi de ce qui va arriver le 15 février 1839, la pendaison des patriotes, ça bougeait pas mal.
Exactement.
Tout le monde se rassemblait partout, puis c'était un mouvement national. Là.
Puis les gens on dirait qu'ils comprenaient qu'est-ce qui se passait parce qu'ils devaient payer. Puis à ce moment-là, le Bas-Canada, évidemment, qui était plus riche aussi, puis que, bon, c'est l'ennemi anglais qui voulait s'imposer puis qui voulait faire en sorte de... Il y avait tout le côté aussi pécunier qui est non négligeable. Alors le 5 septembre, c'est-à-dire le 25 août, 3000 personnes à Bécancour autour du patriote Jean-Baptiste Hébert. L'Assemblée tourne à l'émeute quand les loyaux de Trois-Rivières tentent de s'interposer. Le 5 septembre, 700 jeunes Montréalais fondent la Société des Fils de la Liberté, destinée à libérer leur patrie du joug colonial. André Ouimet préside la section civile et Thomas Tarrow Brown, la section militaire. Le 22 septembre, les Septembre briseurs de Siméon Marchessault organisent à Saint-Antoine plusieurs charivaris, des manifestations parfois violentes contre des Chouaniens, ses alliés du gouvernement anglais.
Ça, c'est quoi des charivaris?
Ben oui, explique-nous donc ça.
Un charivari, c'est quand...
C'est un jeu.
Non, tout le monde se présente à la maison de quelqu'un.
Oui.
Puis ils foutent le bordel.
OK.
C'est ça, un charivari.
Mais c'est aussi un jeu.
Un jeu à télé, un petit peu plus tard.
Oui, à télévision.
quelques dizaines d'années.
Mais c'est bon que tu l'aies, charivari, c'était pas évident. On appelle ça aujourd'hui des invasions de domicile. on remonte à notre époque. Alors, je vais vous en lire trois autres. Après ça, on va faire une pause. Alors, c'est le fun, moi et Bicnic. On s'échange ça, puis en même temps, ben, ça nous fait connaître un peu l'histoire des Patriotes. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui est arrivé?
C'est quoi cette histoire-là?
C'est quoi FM? Vendu à la famille Leclerc. Hey, moi, je fais partie de la famille Leclerc. Ma mère, c'est une Leclerc. Faudrait que je vérifie si ma famille a acheté un poste de radio. ben, pas un, deux. Faudrait que je m'informe, là.
T'es peut-être une station de radio. Tu m'as peut-être hérité, puis tu ne le sais pas.
Ah, qui sait? Alors, avant de faire la pause, alors ici, on était rendu au 24 septembre. Le seigneur Godefroy de Tonancourt est victime d'un charivari. Ça, je vous l'ai dit. Alors, les septembrières rencontrent de la résistance chez Dame Rosalie Cherrier. Une fusillade fait deux blessés et la foule exprime sa fureur en démolissant la maison. 26 septembre, à Saint-Our, le seigneur, il y a comme un nom allemand, Debartz, est victime d'un terrifiant charivari organisé par les septembrières. Le 1er octobre, assemblée des Dames des Patriotes, des Dames patriotes de contre-cœur à la maison Le Noblet du Plessis. 23-24 septembre, deux jours durant, 6000 patriotes sont réunis à Saint-Charles pour fonder la Confédération des six comtés et jeter les bases d'une constitution d'un Bas-Canada indépendant.
Ça brassait pas mal.
Ça brassait pas mal. Mesdames et messieurs, vous écoutez...
Il y avait un gros mouvement politique progressiste pour prendre les choses en main, les 92 résolutions...
Il y a eu les 10 résolutions, il y en a eu 10 aussi, les 10 principales.
Un mouvement réformiste, là, les gens voulaient prendre le pouvoir légitimement.
OK.
Parce que c'est sûr que les Anglais ont dû capoter.
Exactement.
Il faut faire quelque chose pour qu'ils se calment.
Mais ils se sont organisés pour prendre... c'est qui avait le plus d'argent à ce moment-là? C'était le Bas-Canada. Alors, leur visée venait de loin, mais ils s'étaient bien organisés. Vous écoutez Radio Fiat Lux, on fait une pause.
La suite après la pause.
Après la pause. OK, on va essayer de démêler l'affaire. C'est parce que... OK, là, on est rendu ici. Là, je sais pourquoi là, que ça fait ça. OK.
C'est iTunes qui joue.
OK, c'est iTunes, j'ai oublié de fermer. Alors, ce sera pas long, mesdames et messieurs, là, le petit contretemps. En tout cas, on est bien content que vous soyez avec nous autres. OK.
Alors, on va juste fermer.
C'était bon, ça, là, par exemple. Le monde est à pleurer.
OK.
Un autre de John Jones.
OK, alors, on va la remettre, hein. Le monde est à pleurer, j'aimais ça. On va l'écouter. Alors, avec notre ami Leclerc,
c'est parce que le monde dit Jean Leloup, mais hey, c'est mon petit cousin de la fesse de gauche. Jean Leclerc, Leloup. On l'écoute sur Radio Fiat Lux.
Ouais.
Toute sincérité.
Vous écoutez Radio Fiat Lux, émission spéciale sur la commémoration des Patriotes du Québec 2012. Bicnic, la suite.
On est en 1837.
C'est vrai que c'est une belle histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire, disons, les Patriotes.
Disons, ben, une belle histoire, ça dépend comment tu regardes ça.
Ben, c'est une belle histoire dans le sens que ça nous remémore qu'est-ce qui s'est passé. C'est, ouais. Non, c'est pas une belle histoire par rapport à ce que...
Les gens sont révoltés.
Mais donc, si les gens prenaient la peine... Il est pas ouvert, ton micro?
Il est ouvert, il est pas fort.
OK.
Bon.
Si les gens prenaient la peine... Merci. Alors, si les gens prenaient la peine de comprendre l'histoire des Patriotes puis de se réveiller un petit peu, peut-être qu'il y aurait des changements qui se passeraient. Moi, j'ai invité beaucoup de gens, puis on commencera pas à parler juste d'Asie, puis c'est un zoo, on commencera pas ça, là, tu sais. Une chose est certaine, c'est qu'on a j'ai eu affaire à plusieurs petits Elvis Gratton. Et je nomme pas de nom. Ceux qui nous écoutent puis qui devaient agir, faire des choses, gardez. Et moi, c'est une fierté. Je suis content d'être au micro avec vous autres sur Internet. Parce que l'Internet, on l'a prouvé, puis on a rendu hommage même hier avec Gab Paquette à la librairie Saint-Jean-Baptiste. On a rendu hommage à deux stations de radio. Radio X2, Babu Marcotte le matin, qui nous a ouvert le micro ce matin, qui a envoyé un reporter en direct, qui m'attendait, là, j'étais même pas encore arrivé, puis il était live devant le restaurant. Georges, j'ai pas encore arrivé. On va faire un montage, puis on va vous faire écouter ça durant l'émission GFP en direct. Peut-être vendredi ou demain, si j'ai le temps de faire le montage. On vous fera écouter ça, le montage, c'est presque à se plier en deux, là, tellement que c'est comique. Alors, Bicnic, on continue l'histoire des Patriotes du Québec, nos courageux Patriotes. Fallait-il avoir du courage? C'était pas évident.
Ouais, on en est rendu le 1er octobre. Les Patriotes commencent à s'organiser tranquillement. 1er octobre 1837. Alors, il y a l'Assemblée des Dames Patriotes de Contrecœur à la maison Le Noblet du Plessis. Je sais pas c'est où exactement, je regarde sur la carte. Je vois pas, là. Tu connais tout ça, toi, le Noblet du Plessis? Le 23-24 octobre, deux jours durant, 7000 patriotes sont réunis à Saint-Charles pour fonder la Confédération des six comtés et jeter les bases d'une constitution d'un Bas-Canada indépendant. Le 5 novembre, à Saint-Jean, plusieurs loyaux sont victimes de charivari fomentés par Cyril Côté et Louis de Coigne. 5 novembre toujours, série de charivari spectaculaires à Saint-Hyacinthe, notamment contre le facteur d'orgue Jean-Baptiste Cazavant. Eh ben. Le 6 novembre, les Fils de la Liberté affrontent les membres du Doric Club sur la place d'Armes à Montréal. L'émeute s'étend à toute la ville, il y a plusieurs blessés, dont Chevalier de Lorimier. Comme vous pouvez voir, ça brassait pas mal en 1837. 7 novembre, agitation à Saint-Athanase. Les Patriotes s'emparent notamment du commerce de Charles Mongeau, de l'auberge de François Massé et de la boucherie de Jean-Baptiste Arcan. Le 10 novembre, un groupe de Patriotes armés de piques, de fourches et d'un petit canon harcèle l'armée à Saint-Jean. Le 16 novembre, des mandats d'arrêt sont émis contre 26 chefs Patriotes, dont Papineau, dans le but de décapiter le mouvement réformiste. Ouais, ils ont choisi le terme. Décapiter le mouvement, plus tard ils vont décapiter Papineau. À Drummondville, le major Frédéric-Georges Hériot ratisse la région à la recherche de patriotes. Major Frédéric-Georges Hériot. 17 novembre 1837, un régiment de volontaires tombe dans une embuscade tendue par des patriotes à Longueuil. Il y a 5 blessés et 2 prisonniers sont libérés. Le 17 novembre toujours, conseil de guerre à Varennes en présence de Papineau. On prend la décision d'organiser la résistance contre l'armée anglaise. Le 20 novembre, Narcisse Valois et FX Desjardins commandent une vingtaine de cavaliers qui ratissent Vaudreuil afin d'amasser des armes et de recruter des partisans. Ils sont arrêtés le soir même et conduits à la prison de Montréal. Fait que le mouvement de révolte commence à s'organiser. 20 novembre, les Patriotes dévalisent le coffre-fort de la paroisse de Saint-Denis. 20 novembre toujours, sous le commandement de Jérôme Lompré, 200 à 300 patriotes de Saint-Jérôme perquisitionnent des maisons à New Paisley et de New Glasgow avant de rallier le camp de Saint-Eustache, où c'est que je suis né. 18 novembre, rafle policière à Québec où des dizaines de personnes sont arrêtées pour sympathie patriote. Des manifestations ont lieu pour dénoncer des arrestations arbitraires, les bagarres éclatent dans les chantiers maritimes. Le couvre-feu est décrété et la haute ville est verrouillée, tandis que les banques mettent leur numéraire à l'abri de la citadelle. 22 novembre,
attaque contre des loyaux de Saint-Hyacinthe rassemblés au magasin de William Schaffers. 23 novembre, on voit que les dates sont de plus en plus rapprochées. Il y a des événements presque à chaque jour. 23 novembre, à Saint-Denis, l'armée anglaise affronte des patriotes embusqués dans une maison fortifiée sous le commandement de Wolfred Nelson. Après 3 heures de combat, l'armée doit reculer devant la résistance patriote. On dénombre environ 12 morts. 24 novembre, le lendemain, les patriotes prennent d'assaut le village de Saint-Eustache. Le curé hostile est emprisonné tandis que les ressources sont réquisitionnées par un comité militaire dirigé par Amory Giraud et Jean Amory. Amory, drôle de nom, Amory. Et Jean-Olivier Chénier. 25 novembre, Saint-Charles est pris d'assaut par l'armée et emporté par une charge à la baïonnette qui fait au moins 50 morts. Puis là, c'est jour après jour un événement. C'est la guerre presque ouverte entre les Anglais et les Patriotes. Est-ce qu'on continue avec un petit peu de musique, Georges?
Comme tu veux. Peux-tu continuer encore? J'ai juste trouvé
une tonne. On est quasiment là à moitié. Là.
OK. On va y aller avec une tonne, si ça peut ouvrir.
Bon, alors mon micro t'as pas ouvert. Ben,
je vais continuer un petit peu. 27 novembre.
Alors, je vais trouver une belle tonne.
Trouve-moi une belle tonne qui fait avec ça. Là. Oui. Au terme d'un procès sommaire, des patriotes de Saint-Blaise exécutent Joseph Chartrand, soupçonné de collaboration avec l'ennemi anglais. Ça, on a une longue tradition de ça. 28 novembre, au retour de... Je parle de tradition de collaboration avec... il y a beaucoup de collabos au Québec.
Il y en a encore. Hein?
Là, c'est jour après
jour. Il y en a encore
jour.
En masse, en nombre.
Il y en a même au gouvernement. 28 novembre, au retour de Saint-Charles, l'armée affronte 2000 hommes rassemblés par E.E. Je ne sais pas c'est qui. E.E. Malliot. C'est quoi? Étienne, ennemi Étienne. Malliot. Et Toussaint Godu à Pointe-Olivier, Saint-Mathias. L'échafouré fait 2 morts. Là, ça commence à être grave. Hein? Tout le monde meurt partout. C'est vraiment la révolution. 30 novembre, les patriotes de Saint-Eustache opèrent un raid chez les Amérindiens d'Oka et s'emparent d'un canon et de quelques fusils. C'est bon, les Amérindiens avaient des canons et des fusils déjà à Oka en 1837. 2 décembre, retour de l'armée à Saint-Denis qui prend ainsi sa revanche en incendiant le village. 3 décembre, l'armée est à Saint-Hyacinthe où on fouille systématiquement le séminaire à la recherche de patriotes en fuite. Certains y ont Ils sont pourtant cachés, mais 2 décembre, conseil de guerre à Lachenay en vue de porter secours aux patriotes de Deux-Montagnes. 5 décembre, Louis-Joseph Papineau et Edmond B. O'Callaghan trouvent refuge à Henryville où des partisans les guident jusqu'au Vermont par la baie Missisquoi. Papineau se pousse avec O'Callaghan au Vermont. 5 décembre, la loi martiale est proclamée dans le district de Montréal. Elle sera levée en avril 1838, mais rétablie dès novembre suivant pour une durée de 3 ans. 5 décembre 1837, des loyaux de Saint-Armand qui s'attendent à une attaque patriote reçoivent un chargement d'armes à Philippsburg. As-tu quelque chose? Oui. 6 décembre, 80 patriotes réfugiés au Vermont surgissent à Saint-Armand où ils sont repoussés par 300 loyaux à la bataille de Moore's Corner. 6 décembre toujours, Jean-Olivier Chénier fait détruire le pont de Saint-Eustache afin d'entraver la marche de l'armée. 10 décembre, l'armée anglaise prend pied sur l'île Jésus, à Laval, et perquisitionne notamment la maison d'André Benjamin Papineau. 11 décembre, plusieurs patriotes anglophones sont arrêtés pour trahison à Sherbrooke, dont George Washington Brooks, frère du puissant Samuel Brooks. La suite après la pause.
Vous êtes sur Fiat Lux Radio.
Yeah. fait plus son tannant. Avec l'aile doucement repliée, sans testament, et se mirant dans l'or des lunes de mon épi, tout bruyant, luisant de l'angle le vent.
Thank you.
Et oui, on est de retour. L'émission spéciale sur la commémoration des patriotes québécois. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, Pointe-Éca. Et ça me rappelle des souvenirs de LS Radio. La toune que vous venez d'entendre, Engagement. Et vous savez, les gars de radio, on a vu les gros chars passer en arrière de la cour, hein, comme on dit des fois. Et moi, je me souviendrai toujours qu'à l'époque de LS Radio, puis à l'époque de Radio Mutuelle, peut-être un peu plus tard, il s'est passé des affaires. La station de radio a déjà été prise en otage. Il y a des gens, même à CJRP, où il y avait des luttes qui se faisaient pas mal. Ça a brassé dans ces années-là. Des gens qui ont occupé des stations de radio, puis qui sont rentrés là, ils ont défoncé la porte. Entre autres, j'ai souvenir de m'avoir fait raconter, un petit peu avant que j'arrive à Radio Mutuelle, à CJRP, sur le boulevard Laurier, la station. C'est une espèce de gros bungalow qui existe encore, qui est toujours là. Quand vous arrivez à Sillery, le Y, là, pour aller vers la rue Chemin-Saint-Louis. Alors, la station étant toujours là encore. Et j'ai souvenir qu'à un moment donné, il y a deux, trois autobus qui sont débarqués là, puis qui sont de plein de monde, puis qui ont rentré dans la station. Alors, ils ont demandé à l'animateur et aux journalistes de sortir, et on avait pris le contrôle des ondes. On avait raconté ça, puis tout le monde, après ça, ben, il avait installé un système de sécurité à ce moment-là avec un... Pourquoi je vous dis ça? Parce que... Je trouve que plus que jamais, à cette heure, quand tu vas dans les postes de radio, t'as tout le temps l'impression, c'est des bunkers. Je suis allé à Chise faire des entrevues. Faut-tu descendre quasiment dans un trou? Je sais pas si ça avait déjà été à Chise FM. Est-ce que tu as déjà été à Chise? T'as déjà été à Chise?
Allô? Centre Desjardins?
Ouais, tu descends quasiment dans un trou, là. C'est quasiment un abri nucléaire.
Ouais, mais ça, c'est parce que c'est des locaux de l'université, ils sont tous comme ça.
Imaginez-vous, le feu a pris là. Puis moi, j'avais contacté le directeur des programmes que le... Il y a eu un feu adjacent, pas loin de là, puis la station, le directeur des programmes faisait comme nous autres, la radio Internet, sauf que il mettait en onde le lien Internet de la radio. C'est comme si nous autres, Radio Fiat Lux, là, quelqu'un nous rediffuserait, prendrait notre signal, puis mettait ça carrément en onde. C'est possible à faire, ça
ben,
se fait.
Ouais, radio Fiat Lux est né pour ça.
C'est parce que c'est possible de, techniquement parlant, là, n'importe quel diffuseur pourrait dire, bon, on va se brancher sur Radio Fiat Lux. C'est pas compliqué, gars. On y va, gars, pour mettre ça. La console, on lève le pot. Ils ont juste le potentiellement à être élevé. Ouais. C'est pas plus compliqué.
Mais c'est pour ça, je veux dire, pour ça que Radio Fiat Lux s'est mis sur pied.
C'était j'avais pas pensé de dire à Babu, parce que je pense que Babu est directeur des programmes aussi de la station. Puis je tiens à les féliciter de la station Radio X2. J'avais pensé de proposer ça. Regarde, tu as une émission spéciale. Regarde. Sauf que j'ai pas eu le temps. Il fallait que j'avais toutes sortes d'affaires à régler en même temps. Puis des gens à rencontrer. Puis de répondre au téléphone. Ça a l'air de rien, mais c'est la situation. Alors, on va continuer dans l'histoire des patriotes québécois. Que moi, je trouve intéressante. L'histoire des Québécois, de ce qui se passait. Alors, on est rendu au 14 décembre de 1837.
On est rendu à Saint-Eustache.
Alors, une imposante armée de 1500 soldats marche sur Saint-Eustache, où 300 patriotes sont écrasés. Alors, c'est pas compliqué, ils sont écrasés. Alors, l'attaque fait au moins 70 morts et le village est incendié. Le 15 décembre, après sa victoire à Saint-Eustache, l'armée britannique marche sur Saint-Benoît. Saint-Benoît, ça, c'est-tu plus vers le nord ou vers l'est ou l'ouest? Là? Saint-Benoît, c'est pas loin de Saint-Eustache?
Si je me souviens bien, c'est plus vers l'ouest, Saint-Benoît.
Plus vers l'ouest, OK. Alors, qui est incendié à son tour. Alors, le 16 décembre, Sainte-Scolastique, Sainte-Thérèse et Blainville sont visités par l'armée anglaise qui incendie des maisons et arrête plusieurs suspects. Le 21 décembre, un régiment de Royal Incendie, le blocus de Coteau-du-Lac, de crainte qu'il ne tombe aux mains des patriotes et en fasse une forteresse. Alors, on va vous revenir avec ce qui s'est passé à partir de 1838. On va aller jusqu'en 1839. Et je vous dis que l'histoire des patriotes, ça va bien, c'est intéressant. On va vous faire écouter de la musique, puis ça avance quand même assez vite. On a presque terminé toute l'histoire des patriotes. En résumé, alors je tiens à vous rappeler que vous écoutez Radio Fiat Lux Pointe-Éca, la radio planétaire en direct du centre-ville de Québec. On va écouter une autre tune de Charlebois. Moi, je l'aime bien.
C'est de valeur. Quand j'ai vu sa photo avec Paul Desmarais, là, ça m'a fait tiquer un petit peu. Mais coudonc, c'est un artiste. Puis, je pense. On écoute la musique de Charlebois. Vous écoutez Fiat Lux. Alors, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce soir dans cette émission spéciale sur la commémoration des Patriotes. Et je dois vous dire que j'ai bien aimé ma journée. Journée, je vous dirais, bien remplie parce que moi, j'ai tout le temps aimé ça, le savoir. Le savoir, tout simplement. Savoir des choses, découvrir des nouvelles choses. Et les espèces d'érudits qui sortent pas souvent, des fois, ben, on est rencontré quelques-uns. Et c'est pour ça que dans les extraits que vous allez entendre de Radio X2, lorsque l'animateur en direct était dans la salle de conférence où les gens étaient là. Alors, il trouvait ça bizarre. Il n'y a personne qui voulait parler. Fait que moi, j'ai fait une joke. J'ai dit, garde. J'ai dit, les politiciens, ils sont comme ça, là. C'est pas de commentaire. Pas de commentaire, ça veut dire qu'ils... Sauf que ça a été quand même intéressant de voir toute l'équipe de Radio X2 se présenter là. Puis de, je trouve que les gars, ils ont été corrects. Moi, j'appelle ça de la liberté d'expression, une radio libre. On va écouter, on va enchaîner avec une toune de Tex Lecor, une vieille toune.
Vous savez, au Québec, il y a eu quelques tonnes qui ont été censurées dans l'histoire de la radio au Québec, dans l'histoire de notre culture, dans l'histoire de nos médias, de nos diffuseurs. Et il y avait cette chanson-là qui faisait partie du répertoire qu'on appelle « Mise à l'index ». Alors, il y avait la chanson du groupe La Révolution française québécois que je vais vous faire écouter après celle-là, puis Becknick nous revient avec la suite de l'histoire des Patriotes. Et je vais vous faire écouter la toune de la Révolution française québécois. Et cette toune-là était interdite de diffusion dans la province de Québec. Parce que dans ce temps-là, on était encore plus Canadiens-Français qu'aujourd'hui, on est plus Québécois. Fait qu'on, je vous fais écouter, on écoute Tex Lecor, une bonne vieille toune qu'il a fait quand il a commencé à chanter avec sa guitare. Puis qui est arrivé complètement perdu dans le centre-ville de Montréal, parce que c'était un gars de bois. Et vous connaissez Tex aussi par sa chanson à Noël, le Noël du campeur, que tout le monde connaît ça. Je connais pas personne qui connaît pas ce tune-là. Alors on y va avec Tex Lecor, là, Patriote.
Patriote du Sacré-Cœur, le temps est maintenant venu. Relève enfin ta tête fière, bientôt c'est nous qui ferons la loi.
Nous, vive la liberté,
avant nous,
vive l'indépendance,
pour défendre ta race de droite. Tant pis si l'on doit y rester, le Québec aux Québécois. Regroupons-nous pour mieux frapper l'ennemi qui partout nous arrasse. Pour 50 qui devront tomber, 5000 autres reprendront ta place. La relève qui derrière nous monte, eux enfin pourront respirer l'air pur d'une patrie sans honte que ton sang lui aura donné. Patriote du sol québécois, le temps est maintenant venu. Relève enfin ta tête fière, bientôt c'est nous qui ferons la loi. Nos pères avant nous ont crevé pour défendre ta race de droit. Tant pis si l'on doit y rester, le Québec aux Québécois.
Le Québec au Québécois! C'est salut, Becknick!
Je connais surtout Tex Lecor pour les insolences d'un téléphone qui faisait assez
casser.
Ah oui,
à la radio, ouais.
Moi, quand j'étais petit, j'étais dans le coin de Montréal, on écoutait ça, c'est cassé. On écoutait le baseball l'été.
Ouais.
Allô?
Oui, oui. Puis, moi, j'aimais ça, le baseball, quand il gagnait pas mal. Là,
les expos. Hein.
T'en souviens-tu, les expos? Ouais. Quand moi, je suivais ça, on écoutait ça sur le balcon, la petite TV noir et blanc sur le balcon.
Puis c'est toujours bien drôle, les insolences d'un téléphone. Là. Il y a plein du monde, puis il faisait des...
Ben oui, puis c'est un artiste, puis il faisait. Mais c'est un bon peintre aussi. Il est un beau créateur.
Il a tout fait. Absolument. La radio, il fait de la musique. Tu me dis qu'il est peintre, je ne savais même pas.
Oui, il est peintre. Maintenant, il se concentre beaucoup dans l'élaboration de tableaux, là, dans la peinture. Il est pas mal là-dessus, puis il vend des tableaux, puis il est là-dedans depuis plusieurs années.
C'est bon, ça.
Alors, il va avec la suite de l'histoire
de l'Ontario. En 1838. Les Anglais ont plusieurs victoires, viennent de marcher sur Saint-Eustache avec 1500 soldats, sur Saint-Benoît, sinon on marchait à Saint-Scolastique, Sainte-Thérèse et Blainville. Puis là, ben, je veux dire, ils se sont promenés, puis je pense qu'ils faisaient pas bien attention au monde. Là. Puis ils ont incendié, quoi, le blockhouse de Coteau-du-Lac. Fait qu'on arrive en 1838, le 11 janvier. Une centaine de soldats sont dépêchés à Trois-Rivières pour protéger les forges du Saint-Maurice. Le 21 janvier, le député de Drummond, Edward Toomey, se joint aux Patriotes, tandis que le pasteur McMahon accuse ses paroissiens de Tingwick de déloyauté envers la couronne anglaise. Le 24 février 1838, mystérieux vol d'armes à Elizabethtown, New York, où 1000 fusils sont discrètement acheminés aux Patriotes avec la complicité des autorités américaines. 27 février, un groupe de Patriotes commandé par Hiram Blanchard traverse la frontière à Troy et attaque les déloyaux à Potton, Mansonville aujourd'hui. Il y a un mort et trois blessés.
Excuse-moi.
3 et 4 novembre, Rassemblement patriote à Saint-Mathias autour de Louis Bourdon, en vue de s'emparer de Fort Chambly. 4 novembre, 300 patriotes. Ah, je n'ai raté un bout, là. Ouais, c'est ça. 27 février, je suis rendu à novembre. 27 février, bon. On retourne au 27 février. 28 février, lors d'une incursion à Clarenceville, 600 patriotes menés par Robert Nelson proclament l'indépendance de la République du Bas-Canada. Mars, création des Frères Chasseurs, une organisation secrète patriote destinée à tenir un soulèvement en novembre 1838. 22 juin, le patriote Louis Lucier réussit à s'évader de la prison de Montréal grâce au mutisme d'un chien de garde qu'il avait fini par amadouer. Il passe ensuite aux États-Unis. Fait que là, dans ce temps-là, les États-Unis avaient bien, bien envie qu'on se révolte, hein. Ils étaient de notre bord. 3 novembre, des frères chasseurs remontent la rivière à la tortue et perquisitionnent les maisons de leurs adversaires. Il y a échange de coups de feu et au moins un mort. Deux patriotes seront plus tard pendus dans cette affaire. 3 novembre, à Beauharnois, des frères chasseurs commandés par Chevalier de Lorimier et François-Xavier Priard s'emparent d'un bateau à vapeur, attaquent le manoir du seigneur Ellis, puis rallient le camp de Napierville. Ou Napierville. Je ne connais pas ce coin-là. 3 novembre, à Châteauguay, des frères chasseurs menés par le député cardinal tentent de désarmer les Amérindiens de Kanawake. Ils sont faits prisonniers et livrés au gouvernement. Les meneurs sont pendus le mois suivant. Et ça commençait déjà à pendre. 3 et 4 novembre, Rassemblement patriote à Saint-Mathias autour de Louis Bourdon en vue de s'emparer de Fort Chambly. 4 novembre, 300 patriotes se rendent au moulin Meigs de Marieville, où ils doivent trouver des armes, puis s'emparer du village de Christieville, aujourd'hui Iberville. 4 novembre, toujours en 1838, la famille Prévost de Sainte-Anne-des-Plaines, dénommée les Lions du Nord, assermente plusieurs frères chasseurs et fournit des combattants décidés au camp de Terrebonne. 4 novembre, des patriotes d'Éloie Marié et de Charles-Guillaume Bouc s'emparent de Terrebonne. Un traité de paix est signé sous le patronage du seigneur Joseph Masson, évitant ainsi une effusion de sang. 5 novembre, le camp de Napierville compte 4000 hommes, commandés par Charles Hindenlang et Robert Nelson. Ils attendent des armes des États-Unis. 6 novembre. Une centaine de frères chasseurs commandés par Cyril Côté et Lucien Gagnon affrontent des loyaux barricadés dans le blockhouse de la colle. C'est une victoire patriote, mais l'armée se lance à la poursuite de la colonne de Côté. 7 novembre, après avoir pris livraison d'un convoi d'armes, les hommes de Côté sont assaillis par les loyaux d'Odeltown et de Hemingford. Il y a plusieurs morts et les armes sont perdues. La défaite de la colle a des conséquences dramatiques pour les patriotes.
Radio Chatelet.
Hey, comme Babu a déjà travaillé à Musique Plus, on va vous faire écouter un extrait de Musique Plus à l'époque où Babu de Radio X2 travaillait. On écoute ça. Vous allez voir que le son, il est pas mal bon.
Soi-disant, bon
d'existence, sans essence, sans argent. Chacun sa chance, chacun sa danse, chacun son
C'est le bon extrait. Il y a deux extraits de celui-là que je vous fais entendre. Ça, c'est le fameux disque que je vous dis qu'il y avait une levée d'interdit sur ce disque-là au Québec. Ce disque était mis à l'index. Alors, je ne sais pas si c'est le bon, là, mais il y en a deux de la même chose, mais il y en a un qui coupe là, des deux. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez que ça coupe. Alors, on écoute la Révolution française. Alors, c'est pas celui-là. Alors, ça doit être l'autre, là, ce qu'il est, là. Hey, ça me fait penser quand j'étais à Simi, ça. C'était qui ouait un disque en onde, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire. C'est parce que j'avais jamais entendu un animateur dire, bon, c'est parce que... Allez, je vais vous conter l'anecdote, là, ça vaut à peine. C'est parce qu'il y avait deux CD, puis il y en a un qui était scrap, je sais pas, qui avait été... Il y a eu du sabotage, il y a eu toutes sortes d'affaires, cette station de radio-là, qu'on a essayé de sauver... Alors, on va y aller avec le deuxième extrait. C'est parce qu'il y en a un qui était scratch, mais c'est parce que c'est les deux mêmes photos qu'il y a sur le YouTube, là, c'est pour ça. Alors, on y va avec le deuxième extrait de La Révolution française, un disque qui a été d'interdit de diffusion au Québec dans les années 70.
Québécois, nous sommes Québécois, le Québec sera fait.
Vous écoutez l'émission spéciale, mesdames et messieurs, sur la commémoration des Patriotes 2012, mais qui s'est passé, en fait, en 1839. Alors, j'essaie de me trouver dans mes affaires. Bon, OK. Ah, on a eu une grosse journée aujourd'hui, là. Je vais vous dire franchement, là, c'était quelque chose, mais je veux vous offrir une belle chanson de Charles Aznavour. Qui a été, c'est une chanson qui a été composée puis qui a été produite au début des années 70, si ma mémoire est bonne, peut-être 73 ou quelque chose du genre. Ça s'appelle « Au nom de la jeunesse ».